Le micro est revenu. Hey, salut vous autres, comment ça va? J'espère que ça va bien. Quel genre de température faisait dans votre coin aujourd'hui? Il faisait pas chaud en tabarouette au Québec à matin, ça gelait partout. La trappe à gaz gelée à Wego, c'est notre réalité. Mais c'est ce qu'on aime, dehors, la nature. On est tous là pour ça, qu'on soit propriétaire légitime d'armes à feu pour la raison que vous voudrez. On a tous des antécédents ou on a toute une historique qui nous a amenés vers là, qui a rapport avec ce qui se passe dehors. Puis aujourd'hui, ben c'était ça, il faisait fret. Hein? Vous connectez tranquillement pas vite, j'aimerais savoir de où vous êtes, de quel coin de pays vous nous écoutez. Ce serait le fun de savoir un peu parce que vous avez été nombreux à nous demander qu'est-ce que les associations font, qu'est-ce que les fédérations font, qu'est-ce que les associations font. Et on a envoyé cette missive-là qui vient de votre part, à savoir, les gens veulent savoir ce que vous faites dans le cadre de la C21. Et on a vu les fédérations commencer à se prononcer à gauche et à droite, puis whoop, à un moment donné, la NFA qui fait comme, ben nous autres, on aimerait ça répondre, on aimerait donner ce contenu-là en français. Est-ce qu'on peut collaborer ensemble? Certainement qu'on peut collaborer ensemble. Les gens sont avides de connaissances là-dessus, veulent savoir ce qui se passe. Et qui mieux placé que les associations qui sont dans le marché? Il y en a quelques-unes. Pour venir parler et venir fournir du contenu sur la C21. Ben, où on s'en va, d'où on vient, c'est quoi les enjeux? Est-ce que réellement on risque d'avoir tous ces bannissements-là de manière fermée avec la notion evergreen, donc la notion, comment on dit en français, la notion qui dure pour toujours de pouvoir rajouter des armes sur cette fameuse liste-là, la liste de rapport, là, est-ce qu'on peut l'abolir? Tous ces renseignements-là, toutes ces actions-là, eh bien, il y a des fédérations, il y a des associations qui ont le nez dans le légal et qui ont ces informations-là, qui les diffusent régulièrement sur leur Facebook. Et on va souvent penser à tort que c'est juste en anglais. Dans le cas de la NFA, entre autres, on fait des gros efforts pour mettre beaucoup de contenu en français. La NFA, moi, je me souviens d'avoir participé à des NFA Talks en français. Il y a quand même un bon bout de temps de ça avec Chuck, qui va être avec nous autres ce soir, qui est un directeur provincial pour la NFA. Et il y a des efforts de mis, vous allez le voir un peu. Mais je veux juste faire le tour un peu. Est-ce qu'il y en a ici qui sont membres NFA, première des choses? Salut, je vous vois vous connecter, là, vous êtes tous là. Là, là, ce qu'on fait, vous l'avez demandé, vous l'avez, vous avez un bulletin Liberté, Honnêteté, le bulletin francophone de la NFA. Si vous autres l'avez demandé, il est là. Partagez-moi ça partout. Taguez-moi votre monde. On veut remercier la NFA de prendre l'opportunité qu'on a mise sur la table et de faire ce type de bulletin de nouvelles-là. La moindre des choses présentement, c'est de partager le live que vous regardez et de taguer votre monde pour qu'ils viennent l'écouter s'ils veulent avoir les renseignements et savoir ce qui se passe, ne serait-ce que de, par information, si vous n'êtes pas chasseur, ou savoir qu'est-ce qui se passe dans le domaine ou qu'est-ce qui se passe avec mes armes. Vous allez voir, dans les prochaines semaines, on va élaborer les sujets. Aujourd'hui, le topo, c'est de vous présenter la NFA, de voir un peu leur position avec la C21, qu'est-ce qu'ils en pensent. On va vaguer là-dedans un petit peu, les différentes associations, qu'est-ce qu'il y a. Je voulais le voir passer, membre NFA, CCFR, thumbs up. Je vais poser la question en chat tantôt. Littéralement, on n'est pas gêné ici, on va poser les questions. On va essayer de ne pas tuer le micro, ça va devenir un arme. On va poser les questions pour savoir où est-ce qu'on en est. Puis dans les prochaines semaines, bien évidemment, on va aller un petit peu plus en profondeur. Aujourd'hui, on présente, on fait le tour, C21, où est-ce qu'on se situe? Que dire, la NFA, les années 70 dans ce coin-là, vous vous souvenez, C42, C68, les premières grosses offensives, si on le veut. La NFA commençait à être présente dans la législation à ce moment-là, à la défense des propriétaires légitimes d'armes à feu, et elle se définit un peu par ça, pas un peu, mais beaucoup par ça. Hein, sur le plan plus politique, on va le dire comme ça, la NFA est présente pour défendre les droits des propriétaires légitimes d'armes à feu. Hein. Elle va agir comme expert conseil dans plusieurs cas auprès de propriétaires légitimes d'armes à feu qui auraient été lésés dans leurs droits par rapport à leur arme à feu. Donc, il y a des ressources légales à la NFA. La NFA est constituée de façon à ce qu'ils ont accès à des experts conseils et ils ont, eux, une grande connaissance du dossier. Et la NFA va aussi porter des actions directement envers le gouvernement ou au sens public lorsqu'elle ressent que les droits des propriétaires légitimes d'armes à feu sont lésés. Donc, évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est quand tu veux représenter une communauté, bien, tu dois le faire par le nombre. Qu'est-ce qu'on entend là par le nombre? Bien, je vous ai demandé si vous étiez membre. La première chose, la première action, puis ça, on va vous en reparler souvent, là, on va en parler tantôt encore, là, c'est d'être membre de la NFA. Plus la NFA a de membres, plus le financement est présent pour mettre en place des ressources, que ce soit légales ou encore publiques, et plus elle représente par le nombre C'est important d'aller soutenir ces différentes organisations-là. La NFA, vous le voyez par ce qu'on a mis en place là avec les bulletins de nouvelles, c'est très important et ça leur donne le moyen de faire beaucoup d'actions pour vous venir en aide. Donc, le membership est très, très, très important. Je vous fais un tour d'horizon maintenant. Qu'est-ce qui se passe du côté de la NFA quand on est membre ou encore non-membre? Il y a beaucoup de ressources là, pour les non-membres qui sont directement sur le site de la NFA. Dans un premier temps, c'est un peu votre source de nouvelles au niveau de la C21. Donc, beaucoup de sujets recherchés sur la C21 et vous aurez remarqué qu'en haut, il y a un petit bouton English parce que là, on est en français, donc il y a bel et bien des ressources. Et ça, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que sur le site de la NFA, il y a beaucoup de stocks en français. Donc, rapidement, beaucoup de nouvelles au niveau de la C21 ou tout ce qui entoure le droit à la propriété des armes à feu ou les droits des propriétaires légitimes. Les NFA Talk, donc ce sont les directs de la NFA. Alors, vous voyez, dans le passé, là, moi, je me souviens d'avoir fait, entre autres, dans le temps de Aaron O'Toole avec Chuck, qu'on va voir tantôt, et avec d'autres collègues de la NFA. Et vous voyez, des NFA Talk en français. Donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs là, c'est un petit peu cette version-là, mais là, c'est la version bulletin de nouvelles. Une médiathèque qui est très intéressante. Ça, là, j'attire votre attention. Vous êtes à la recherche de stocks intéressants à mettre sur les médias sociaux pour démontrer soit votre appui ou encore votre opposition face à tout ce qui se passe dans le cadre de la C21 ou de toute autre législation qui passe dans ce sens-là. Dans le cas de Carey Price, lorsqu'il est sorti, tout ce qu'on a fait alentour de ça, il y a énormément de caricatures comme ça qui sont super tripantes, qui sont super bien montées, qu'on peut aller chercher, qu'on peut partager. Sinon, tous les communiqués de presse de la NFA, évidemment, sont disponibles là-dessus. Il y en a une tonne. On peut aller chercher beaucoup de renseignements là-dedans. Section vidéo, quand même assez bourrée d'informations. Justement, là, qui est la NFA, la puissance des bénévoles, pour expliquer un petit peu ce qu'il y a en arrière de ça. Il y a énormément de stock. On parle de C61. On parle beaucoup de C21. Là. Tu sais, C42, C68, c'est loin. Là, c'est en arrière de nous autres il y a longtemps. C71, si vous voulez vous rafraîchir l'esprit un petit peu, on l'a là. Et le magazine canadien sur les armes à feu, donc, excusez-moi, mais le Firearm Journal que vous recevez lorsque vous êtes membre de la NFA. Et évidemment, il nous demande si on veut traduire, évidemment, si vous voulez devenir membre, mais il y a la section ici avec les avantages aussi. Il y a des adhésions à vie qui existent, il y a des adhésions professionnelles, il y a des adhésions de plusieurs types d'adhésions. Alors, si on voit ici là, les prix courants, le prix familial 45 $, prix courant 35 $, 30 $ pour les gens de 65 ans et plus dans l'adhésion personnelle. Évidemment, l'adhésion à vie est disponible aussi. Vous êtes beaucoup, puis ça, je m'en suis rendu compte quand on parle d'adhésion, vous êtes beaucoup à être habitué d'être lifetime associate ou membre à vie d'association. Bien, c'est possible aussi du côté de la NFA. Et évidemment, vous avez les avantages, donc votre carte de membre, l'assurance responsabilité de la NFA qui vient avec le membership et évidemment, votre abonnement à la revue canadienne des armes à feu, donc le Firearm Journal que je vous présentais. Ça fait partie des avantages, mais on va se le dire, l'avantage principal d'être membre de la NFA, c'est de faire partie de ce nombre-là que la NFA peut représenter et du leverage que ça peut représenter sur le plan financier, parce que les donations deviennent excessivement importantes. Hein? L'ensemble ou la très grande majorité des gens qui œuvrent auprès de la NFA, bien, ils le font sous forme d'actions bénévoles. Donc, Chuck, qu'on va rencontrer tout à l'heure, c'est un bénévole. Les gens de terrain, etc., dans les bureaux, il y a beaucoup de bénévolat alentour de ça. Et ces gens-là donnent leur temps pour être capable de faire rouler cette organisation-là. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Alors, ce que je fais, bien, c'est que je suis membre. Donc, mon reflet à moi, comme propriétaire légitime d'armes à feu, pour donner un maximum de fuel à cette organisation-là. Je regarde les commentaires en même temps. C'est pour ça que les yeux me crochissent ici. Là. Hey, vous êtes une bonne gang. Vous êtes une bonne gang. Allez chercher vos chums, là. On partage, on tag à côté de l'embarrure, s'il vous plaît. On va chercher tout le monde. Je vous ai parlé du membership. Je vous ai parlé un petit peu d'alentour de quoi on tourne. Je vais aller chercher maintenant notre invité de la soirée qui va être mon partenaire un peu dans ces... mon partenaire, ma source d'information. Carrément, moi, je fais rien que présenter. Mais qui suis-je? Qui suis-je si ce ne serait pas de Monsieur Chuck Côté en train de s'hydrater? Comment allez-vous?
Salut Martin, ça va bien toi?
Ça va super bien. J'ai-tu fait des erreurs? J'ai-tu bien fait ma présentation?
Martin, tu as fait une très belle présentation. Écoute, je vais prendre deux secondes pour saluer tous les auditeurs. Je regardais, j'ai même vu des noms que je reconnaissais. Donc, Christian Caisse qui est là. Donc, salutations à tous les auditeurs. Merci d'être là et d'écouter ce qu'on a à dire.
Exact. Mais pendant ce temps-là, là, continuez à partager puis taguez vos chums. Là. Je ne vois pas beaucoup de tags. Là. Je vous vois partager, mais taguez vos chums. Partagez-moi ça, que le monde vienne nous rejoindre. Ça va être disponible après. Ça va être partagé partout. Mais on veut que les gens viennent nous rejoindre. Fait que, ma présentation n'était pas trop pire. C'était ça, hein, les années 70, C-42, C-68, je pense en 77, entre autres.
En fait, la NFA a commencé sous le nom de la Phoenix Farm Association dans les années 70. C'est en effet la plus vieille organisation, le plus vieux regroupement de chasseurs et de tireurs sportifs au Canada. C'est une organisation pan-canadienne, naturellement.
Et voilà. Et je ne me trompe pas, hein, la majorité des acteurs qui sont au sein de la NFA, comme toi, vous êtes tous des bénévoles, c'est bien ça?
En effet, tout le board... tout le board est bénévole, donc tous les différents directeurs des provinces sont bénévoles. On a quelques commis au bureau qui est situé en Alberta, qui eux sont rémunérés, mais sinon, là, tous les gens qui font des actions directes pour la NFA sont des bénévoles. En effet.
Et toi, au sein de la NFA, le poste que tu occupes, on dit directeur Québec, qu'est-ce que tu fais exactement?
En fait, moi je suis assis sur le board, je représente le Québec. Je donne mon opinion étant un chasseur et un tireur sportif. J'ai commencé à la NFA comme on appelle un agent de terrain. J'allais dans les gun shows, j'allais voir les différents magasins. Dans le fond, je parlais de la NFA. J'essayais de sensibiliser les gens justement au regroupement, de dire le poids politique. Tu sais, j'en parle souvent, puis t'en as parlé aussi. Qu'est-ce qui fait la force d'une organisation? Qu'est-ce qu'on est capable, comment on est capable de mettre pression sur le gouvernement? C'est en disant, écoute, nous autres à la NFA, en ce moment, on a 70 000 membres. C'est sûr que si on était 100 000, 500 000, il y a 2 millions de détenteurs de permis de possession d'acquisition au Canada. Puis là-dessus, on est seulement 70 000 membres à la NFA. Environ avec les deux autres organisations au Canada qui existent, CCFR et CSSC, on se partage environ là, 100 000 membres à la gang.
Hey, je te pose une question d'emblée. Là. Puis ça, tu m'as entendu sûrement dans mon... En passant, je réponds à une question en même temps. Il y a des gens qui demandent comment taguer. Pour taguer, vous faites un A commercial suivi du nom de votre ami. Vous allez le voir apparaître là, dans les noms en tour. Vous cliquez dessus. Ça va vous permettre de taguer vos amis. J'ose te poser la question. On est dans un bulletin de nouvelles NFA. On vient de parler des différentes associations. J'ai parlé de rentrer membre de la NFA. Tu le sais, je le répète souvent dans mes lives, je suis de ceux qui sont d'avis que ceux qui sont dans le combat de la C-21 ou peu importe qui est propriétaire légitime d'armes à feu devraient être membres des trois associations. T'en penses quoi?
Écoute, si je te dirais ce qui arrive la plupart du temps, c'est que les gens vont aller chercher un membership à chaque organisation parce que moi, personnellement, tu sais, oui, je suis directeur du Québec, mais à la base, je suis un tireur, je suis un chasseur. Puis chaque organisation rejoint des personnes de différentes façons. Puis chaque organisation a aussi ses forces et ses faiblesses qui est patchée par une autre organisation.
On le voit, là. Vous faites des actions qui sont différentes. Là. Puis, tu sais, je veux dire, je peux-tu reculer en arrière un peu? Ben, c'est présentement, là, j'ai l'impression que l'eau coule très bien. Ça n'a pas toujours été le main dans la main avec la CCFR nécessairement, mais aujourd'hui, on comprend beaucoup plus l'importance de l'unité puis que chacun fait des actions qui sont différentes. Bon, c'est sûr, il y a toujours de la partisanerie, puis un tel a fait ça, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, puis etc. Mais si on débarque de là, l'harmonie entre le CSSC, le CCFR puis la NFA, ça ressemble à quoi?
Ben, en ce moment, ça va très, très bien, je te dirais. J'étais à TACOM il y a quelques mois de ça. On a parlé, j'étais avec Rick, le président de la NFA, puis on a parlé avec Rod Giltaka, qui est le président ou le CEO là, de CCFR. Puis écoute, c'était très cordial. Tu sais, c'est des gens, en fait, c'est des gens qui étaient à la NFA avant. Puis dans le fond, tu sais, il y a comme eu un différent d'opinion, chose qui est très, très correcte. Certaines personnes qui étaient à la NFA, naturellement, tu sais, avaient certaines discordes avec ces personnes-là. Mais maintenant, en ce moment, je te dirais, les relations sont excellentes. On leur parle régulièrement. Rick a fait une entrevue avec Rod sur un réseau anglophone il y a un mois de ça, sur un réseau de chasse. Je ne me souviens pas exactement, mais je pourrais retrouver pour un des prochains lives. Puis c'était vraiment excellent. Là. Donc, écoute, les relations sont excellentes. À SHOT Show, CSSC, on travaille avec eux depuis, Écoute, Tony Bernard.
On était ensemble, à la convention de la CSSC dans la. Oui, on est en stratosphère.
À la stratosphère, exactement, à SHOT Show. Donc, je veux dire, nous autres, on commandite leur événement, même chose pour eux. Donc, les relations sont excellentes. Tu sais, Tony Bernard.
Commanditer l'événement de l'autre organisation.
Ouais,
c'est ce qu'on peut dire. Là, c'est...
Ben, non, mais c'est parce que, je veux dire, comme je parle souvent, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau, voilà. je veux dire, si c'est pas juste les membres de la NFA qui vont conserver leurs armes. Là, tu sais, je veux dire, c'est tous les propriétaires d'armes à feu canadiens qui veulent conserver leurs armes. Donc, que ce soit un ou l'autre, c'est la même chose.
Deux petites secondes. Stéphane vient de donner quoi de très important. Là. Ça se passe souvent. Là, vous voyez, c'est marqué NFA, on parle d'armes à feu présentement. Et tout de suite, Stéphane dit, dès que je mets des commentaires, je me fais couper. Et on le voit présentement, là, ça arrive dans un live sur deux, un live sur trois. À un moment donné, dès qu'on commence à parler d'association, le gun lobby, si on le veut comme ça, sur Facebook, est très, très, très spoté. Et très rapidement, il y a des commentaires qui sautent. Et si vous regardez, vous mettez le petit curseur sur le commentaire, vous allez voir en bas que le commentaire a été automatiquement supprimé par Facebook parce qu'il contrevenait aux règles de la communauté. Ça, ce n'est pas nous autres. C'est l'algorithme de Facebook directement qui cible. Puis, tu sais, quand on parle de C11 et C18 qui s'en viennent au niveau de la... le CRTC qui va légiférer ce qui est disponible sur le web puis ce que vous pouvez poster sur le web. Mais je pense que les algorithmes sont en train d'être très bien testés parce qu'effectivement, je vois des commentaires revoler à tour de bras présentement. Puis moi, de mon côté, là, je vous le dis, là, j'ai les deux mains là puis je peux garder là longtemps puis je peux dire à Régis de faire la même affaire là, en régie. Là, il y a chez nous, à moins que ce soit très, très offensant, là, il n'y a pas de retrait de commentaires. Les affaires de Monsieur Mamadou veut vous financer une maison qu'on enlève. À part de ça, on bloque pas. Là. Ça se fait automatiquement via Facebook, littéralement. J'ai vu une question passer en parlant de dans le même bateau. Il y a souvent, un parallèle qui se fait. Justement, regardons. Tu vois, là, ça apparaît à l'écran. Il y a un grand parallèle qui se fait entre la NFA et la NRA. Il s'est souvent dit que la NFA est un enfant de la NRA, financé par la NRA, dirigé par la NRA. Je veux t'entendre là-dessus.
Écoute, Martin, je peux te promettre que ce n'est pas le cas. Est-ce que la NFA est aussi intense que la NRA? Écoute, moi, je vais te répondre que non. Premièrement, la NRA, qui est la National Rifle Association aux États-Unis,
oui.
Pour les Américains, le droit à l'armement, c'est un droit.
C'est un amendement.
Ça le dit, là. Tu sais, eux, c'est aussi valable que le droit de s'exprimer, que le droit à l'association. Je veux dire, un droit. Nous, ici au Canada... ce n'est pas un droit en tant que tel, c'est considéré comme un privilège. Nous, à la NFA, cependant, on va dire que c'est un droit à la propriété. On n'a pas le droit à l'armement, puis de dire de faire des milices, des choses comme ça, mais on dit que la possession, une fois que tu possèdes ton arme à feu, que tu l'as acheté légalement, que tu as payé des impôts avec l'argent avec laquelle que tu l'as acheté, que tu as payé des taxes dessus, on trouve que c'est complètement aberrant pour un gouvernement de venir te dire ben tu n'as plus le droit de l'utiliser, surtout que tu l'utilisais dans un dessein sécuritaire pour une utilité légale et correcte.
La NRA, donc, qui est une association complètement différente, il n'y a personne sur le board d'un qui est sur l'autre. C'est sûr que l'intensivité, il y en a qui voudraient, tu sais, puis c'est toujours, on a parlé même avec Steph Monnet dernièrement, là, souvent les problèmes arrivent avec les extrêmes. L'extrême gauche et l'extrême droite. Quand c'est trop fort, il y a des problèmes. Alors, et surtout ici, au Canada, où est-ce qu'on est dans un vent de changement énorme au niveau de la perception des utilisateurs ou encore des collectionneurs ou des conservateurs d'armes à feu, le minding est en train de changer beaucoup, beaucoup avec l'apport des médias de masse, et on va le redire, là, qui lorsqu'on parle de... Garant M1, où on parle de la petite number one, la Ruger number one ou quoi que ce soit, cross en bois, etc. Ils nous mettent des foules automatiques à l'écran qui sont bannies depuis 1977, si je ne me trompe
exact.
Pas. Fait, ouais. L'influence des médias de masse amène un vent de changement qui est une des transitions les plus fortes, on va dire, depuis la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Là, c'est un des vents de changement les plus forts au niveau de la perception sociale d'un item consommable par l'homme qui, dans ce cas-ci, est l'arme à feu, utilisée à des fins ancestrales légitimes qu'on est en train de complètement démoniser. Hein, c'est sûr qu'une association au Canada ne peut pas avoir l'agressivité d'une association aux États-Unis parce que, je vais dire comme toi, c'est le privilège, puis le privilège, il est brassé d'un bord puis de l'autre.
Ben, écoute, si je peux me permettre, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, tu sais, souvent, l'image qu'on a de la NRA est véhiculée par les médias de masse, OK?
Exactement.
La NRA, là, si tu regardes, par exemple, dans chaque petit comté aux États-Unis, c'est des bénévoles qui font des soupers spaghettis et qui font des cours de sécurité de maniement d'armes à feu.
Oui.
C'est essentiellement ça, là, la NRA. C'est,
ils ont des chapters, d'un gros lobby.
Oui, bien, c'est des chapters. On va parler d'un gros lobby, tu sais, méchant, qui, justement, veulent armer toute la population, mais... À la base, ce sont des bénévoles qui souhaitent juste...
Non, mon live n'est pas ouvert sur TikTok. Sport. Excuse-moi, je réponds en même temps. Le live n'est pas ouvert sur TikTok. Le réseau ne nous permet pas encore de faire TikTok en même temps. Puis quand j'ai un intervenant de l'autre côté comme ça, vu que je ne peux pas... Je suis en train de trouver un moyen, là. Aux dernières nouvelles, à moins qu'un autre technicien nous aide, là, on va probablement sortir la carte vidéo pour faire accraire à un autre ordinateur qui est un écran pour garocher ça sur TikTok l'autre bord. On s'en vient TikTok là-dessus, il n'y a pas de problème. Là. Quand je suis seul ou qu'on est moi et Kate ensemble, on peut le faire, mais quand on a un intervenant de même, c'est parce que vous n'entendrez pas parler quand l'intervenant va parler, malheureusement. Alors, écoute, il y a une différence marquée entre les deux. C'est deux choses différentes. On le voit, on revient du shot show à Vegas. Là, le kiosque de la NRA, là, ça fait très Parlement Maison-Blanche. C'est très officiel, c'est gros, puis c'est un gros. On est complètement ailleurs. Là, je vais arriver dans le concret au niveau de la C21. Je pense que tout le monde qui sont connectés présentement l'est probablement parce qu'ils ont une sensibilité de près ou de loin, pour une raison ou une autre, que ce soit des tireurs sportifs, des chasseurs, des collectionneurs ou quoi que ce soit. Je veux savoir... Quelle est la position ou c'est quoi le point de vue de la NFA par rapport à la C21? Comment vous entrevoyez, c'est quoi votre jeu là-dedans ou c'est quoi votre place là-dedans?
Mais la NFA, naturellement, là, on est contre la C21. Tu sais, les accords, comment je pourrais dire? Tu sais, il y a eu des compromis qui ont été faits, ça fait 40 ans, là, OK? C21, c'est la continuité de C71. Dans le fond, au début, c'était d'enlever les armes qui sont d'aspect militaire.
Oui.
Ça a été fait par exemple en décret en 2020. Là, C21, c'est les armes de poing. Là, il y avait des airsoft. C'est ça l'englobe énormément de choses. Mais tranquillement, pas vite, ils vont chercher les plus petits groupes de propriétaires d'armes à feu. Là, c'était ceux qui possèdent des armes d'aspect militaire. Ensuite de ça, les propriétaires d'armes de poing. Puis tranquillement, pas vite, là, ils ont enlevé certaines armes de safari, de gros calibre, tu sais, des bolt action, certains semi-automatiques aussi, des 12 tout simplement à canard. Donc, tranquillement, pas vite, ils grattent. Tu manges un éléphant, une bouchée à la fois. Puis là, après ça, ben, un jour, ça va être... Tu sais, on s'en... J'aime pas ça utiliser le terme, on s'en va sur un désarmement complet parce que ça fait des fétiches. Puis... Mais si on regarde, il y a des pays où est-ce que ça a été fait tranquillement, pas vite. Comme
oui,
ça. On regarde en Europe, l'Angleterre, la France, on s'en va vers ça. Là. C'est pas vrai qu'ils vont arrêter là. En 1995, c'était supposé d'arrêter là aussi. Là. Il y a des gens qui possédaient des armes de collection, puis là, c'était interdit, oui. C'était fini. Ils ont dû les garder dans leur coffre, ils ont eu des clauses grand-père. Mais là, on vit la même chose qu'en 1995, mais au niveau de d'autres armes. Puis dans peut-être 10, 15, 20, 30 ans, quand il va y avoir un autre gouvernement libéral, mais ça va être autre chose parce que la narrative va changer. Ça ne sera plus des armes de chasse, ça va être des armes de sniper parce que des calibres comme 308 et plus, ben, ils vont être considérés comme gros calibres. Puis vos lunettes de tir de 5,25, ben, ça va être considéré comme des lunettes de sniper. Tu peux tirer quelqu'un à 1000 verges. Donc, tu sais, la narrative est travaillée. Puis, en fait,
on reconnaît le narratif du passé. Là. On reconnaît le narratif du passé.
Oui, définitivement.
Tout le temps, là, je pense que c'est, bon, tu vois, on en voit apparaître plein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Tu sais, ce qu'on nous montre à l'écran, là, les Ozzy puis les full automatiques, là. Me semble que c'est 77 ou dans ce temps-là. Et puis, le même type de narratif était utilisé. Puis là où est-ce que ça devient obsolète, puis comme association, tu dois te sentir lésé dans le droit de tes chasseurs, c'est quand un gouvernement propose les variantes à une arme, qui est une arme de, on va dire, la catégorie carabine, avec l'Armalite Rifle numéro 15, qui est l'AR-15, et que comme variante, on décrète des armes comme le Derya MK-12, qui est un 12, il n'est pas dans la même catégorie, pas en tout, parce qu'il y a des caractéristiques ergonomiques. Et nous autres, au début, quand on a commencé à sortir ça, on a catégorisé ces caractéristiques ergonomiques-là en opposition, en disant, oui, mais dans la responsabilisation d'un chasseur, dans une arme de chasse, bien souvent, on va se munir de caractéristiques ergonomiques pour avoir une meilleure position, placer un meilleur coup pour justement souvent n'avoir qu'à placer un coup et abréger les souffrances de la bête le plus rapidement possible. Ou encore, quand on fait du tir sportif, on va aller chercher le plus de précision possible au niveau du tir sportif. On va mettre des caractéristiques ergonomiques dessus. Alors, on a pris le dessin, là, la silhouette noire, là, pas photo 4K, là, noir sur blanc, là, de l'AR-15. Puis tout ce qui est un pistol grip ou un quoi que ce soit, on l'a classé. On a posé la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs a posé il y a 3 semaines de ça au ministre fédéral de la Défense, de la Défense nationale, de la Sécurité publique, excuse-moi, M. Medicino, à savoir si les caractéristiques esthétiques seraient prises en compte dans l'établissement de la liste. Sa réponse a été non. Et vous voyez comment c'est... Sa réponse a été non, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Moi, là, juste dans cette première passe de C21-là, là, si on remonte en arrière, là, on a des commerçants qui nous parlent jusqu'à 250 000 $ d'inventaire qui est gelé, non remboursé, non remboursable, qui attendent de voir la prochaine vague s'ils vont fermer ou rester ouverts. Pour des considérations esthétiques ou ergonomiques sur des armes qui, par variante, vont chercher des armes de complètement d'autres catégories, puis on a le culot de nous répondre en pleine face que non, on ne les prendra pas en considération, mais vous les prenez en considération présentement. Là. C'est banni. Là. On réagit comment à ça? C'est là où est-ce que ça devient important d'avoir un porte-voix ou un crachoir comme la NFA qui, appuyé par une masse d'individus, peut aller porter haut et fort. Puis vous l'avez fait beaucoup en caricature sur le site, d'ailleurs.
Ben, Martin, ce ne sera pas la première fois qu'un politicien va mentir à ses constituants. Fait que, écoute, moi, je prends toujours ça avec un grain de sel. Là. Écoute. L'aspect du look là, n'a absolument rien à voir dans le mécanisme de l'arme. Puis je me rappelle, dans le fond, pour faire une petite parenthèse, souvent, l'ergonomie, là, je me rappelle, moi, quand j'avais 10-12 ans, que je tirais, la carabine, par exemple, de mon père, la 270 Winchester avec la crosse en bois, qui est aucunement ajustable, c'était aucunement confortable, c'était aucunement pratique pour un enfant, tandis que quand tu as une crosse télescopique, ça ne change absolument rien au fonctionnement de l'arme à feu, c'est juste plus confortable pour quelqu'un, femme, par exemple, quelqu'un de plus petite stature, va pouvoir être plus confortable, mieux l'accoter dans son épaule, et probablement trouver le tir beaucoup plus agréable aussi.
Bien, je pense que oui. Puis tu sais, il y a même les freins de bouche ont été identifiés par rapport au flash des armes militarisées, à faire comme c'est un look qui est très, très, très militaire. Non, tabarouette, encore là, c'est pour permettre de tirer un calibre plus confortablement. Pas nécessairement juste pour un enfant ou une femme, plus confortablement. That's all. Ce sont des avancements technologiques qui nous permettent de... Mais on aurait pu aussi adresser les voitures quand on a commencé à mettre des turbos dedans, en disant, ben là, ça, c'est pour faire de la course, c'est dangereux, ça, c'est très, très, très dangereux. Chamène, définition et liste. C'est un enjeu qui est excessivement dangereux. Et l'exemple que j'aime prendre, c'est par exemple le maximum de décibels autorisés sur les pots d'échappement des motocyclettes. Il est défini par la loi que tu n'as pas le droit d'émettre plus. Tu n'as pas le droit de te promener avec une motocyclette sur le réseau routier régi par la SAC. Avec un pot d'échappement qui émet plus que tant de décibels. Alors, cette loi-là, comme bien d'autres lois, est faite avec une définition claire. Hein, comme le meurtre, tu n'as pas le droit de tuer. Si tu te retrouves en état de tuer, tu es dans le trouble. Bien, tu n'as pas le droit de te promener avec un pot d'échappement de plus de 100, je ne sais pas trop combien de décibels. Eh bien, bon, regarde. Bienvenue, Michel. Bienvenue dans tes membres de NFA. On vous encourage fortement. Bien, si tu te fais prendre en situation 2, on prend une mesure et on t'émet un constat d'infraction. Il n'y a pas une liste dans toute autre forme de législation ou à peu près. Il n'y a pas une liste des pots d'échappement. Ils n'ont pas non plus interdit l'ensemble de la gamme Akrapovic parce que Akrapovic fait aussi des pipes qui sont moins bruyants. Puis ils n'ont pas non plus interdit les Ninja ou les CBR parce qu'ils pourraient être munis de. Alors, il y a une espèce d'enjeu entre une définition qui n'est pas claire, un caractère evergreen. Puis, on a l'audace d'avoir une liste au travers de ça, dans laquelle, quand on pose des questions avec un Parker Brother, qui est un 12 casseux, un coup, et on leur dit « Christy, c'est un arme de chasse », là, on a M. Trudeau qui se lève, puis on voit que les conservateurs sont « deep in the pocket of the lobby, of the firearm lobby », on veut éliminer les armes d'assaut, puis là, l'autre, il y a un casseux dans les mains. C'est dangereux, Chuck.
C'est sûr, c'est pour créer de la confusion parce que la plupart des gens ne se tiennent pas au courant comme ça. Ils vont vaquer à leurs occupations, vont aller chasser, vont aller tirer. T'sais. Ils ne sont pas le nez tout le temps à suivre ce que les politiciens vont bannir et pas bannir. Nous autres, on est là pour ça, pour les informer. Mais comme tu dis, ça n'a aucun sens. La liste, même nous, là, on est. Ouais, vous faites quoi? Puis j'ai comme tendance à dire que c'est un peu justement pour créer de la confusion, tout simplement. J'ai bien aimé le point que tu as dit là, par rapport aux décibels. Là. Je voulais en parler. Ben, on est un des pays où est-ce que justement le fait de tirer, on n'a pas le droit à des suppressors.
Okay? Oui.
Parce que, tu sais, premièrement, le tir et la chasse, c'est le seul sport que justement, il faut que tu fasses le plus de bruit. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'audition justement à cause de ça. C'est ça.
Mais la CSST m'a décrété une oreille par rapport au tir et puis l'ensemble du public paye pour mes appareils auditifs. Je fais de la couffaine à côté d'un bordure.
Puis pourtant, plusieurs pays européens où la réglementation sur les armes à feu est beaucoup plus stricte qu'ici, ou voire quasiment la possession citoyenne inexistante,
oui.
Tu vas passer pour un sans-dessin si tu ne vas pas chasser avec une canne. Ou si tu ne vas pas tirer avec un suppressor.
Donc, oui. Hey,
c'est juste pour te voir dire comment les mœurs sont différentes.
Christian qui dit le problème, c'est que les policiers vont aller dans le sens de la masse de la population afin de gagner du capital politique et de se faire réélire.
Christian est très au courant.
Oui, très au courant. J'ajouterais à ça qu'en plus, tu sais, c'est montrer une carte pendant qu'on cache l'autre, on a peut-être appris ça au secondaire. Tu sais, l'influence, figurez-vous, là. Là, je ne veux pas être conspirationniste. Là. Mais écoutez bien, on tombe en état d'urgence sanitaire, on shot tout down, on envoie des millions de dollars en support aux médias pour qu'ils continuent à opérer. D'ailleurs, nous autres, on a soumis notre candidature à ça, mais puisqu'on n'est pas déjà inscrit aux subventions, donc puisqu'on s'autofinance, on n'est pas inscrit, on ne prend pas l'argent du public, on nous a dit tu n'as pas ton numéro SODEC, tu n'es pas admissible. Hein, mais Radio-Canada, TVA, etc., ont d'énormes sommes d'argent. Et est arrivé le décret en conseil, le Order in Council, en même temps, donc dans les jours qui ont suivi ou à peu près. Là, whoop, on commence à avoir de l'information qui est biaisée. T'sais. Je veux dire, oui, c'est payant, c'est facile pour le gouvernement qui va suivre la masse, mais c'est facile aussi pour les médias de venir induire un message à la masse lorsqu'on parle d'armes à feu, parce que c'est quelque chose qui, ça parle beaucoup. Un canon. Marcello! Hey, Marcello qui est déjà membre, écrivez-nous-les quand on est membre. Hey, on va faire de quoi, Chuck? On va faire de quoi de pas pire? Dans édition limitée. Regardez bien ça. On est capable de voir qui s'abonne, là. On est capable de voir qui s'abonne, là. C'est une exclusivité, c'est rendu illégal. Alors, ça, c'est une. Tu me la décris-tu?
C'est un beau M1 Garand. C'est quoi la grosseur? C'est la.
C'est la 3006.
Oui,
c'est une 3006 avec le clip charger dedans. Si vous pèsez sur le piton, les balles en volent partout. Presque tout fonctionnel, sauf qu'il ne tire pas. C'est une très belle réplique de Goat Gun.
À quelle échelle, Martin?
Je ne sais pas c'est quoi l'échelle. Y a-tu écrit dessus? Il y a même la plaque.
Écoute, le M1 Garand, je vais juste faire une parenthèse. Le M1 Garand qui a été créé par Jean Garand, qui était un Canadien de Sainte-Martine, en Montérégie, puis le général Patton a dit que c'est ça qui a aidé à sauver la guerre. Dans le fond, ça a été le greatest battle implement contre les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale.
Bon, ben ça, c'est une miniature, là. Je ne sais pas c'est quoi l'échelle exactement, mais c'est long comme à peine mon avant-bras. Là.
Nice.
Oh, demain. À peine mon avant-bras. Dans les nouveaux membres du prochain mois, là, on va faire un live par semaine. Dans les nouveaux membres NFA du prochain mois, là, on fait tirer la réplique. Et je ne sais même pas s'il en reste chez Goat Guns. Là. C'est une édition spéciale que j'ai achetée. Là. On fait tirer la réplique du M1 Garand. En même temps, c'est un maudit beau mémorandum à ce qui se passe présentement. Ouais. Parce que c'est la 3006, là, c'est encore 70% des chasseurs, si ce n'est pas 75%. Et c'était un calibre à l'époque qui était facilitant parce que c'était aussi le calibre qu'on distribuait aux fermiers, aux tenanciers de terre, etc. Fait que les militaires pouvaient aller se recharger chez les fermiers. C'est l'apparition de la 3006, c'est l'histoire de la 3006 que j'ai entre les mains présentement. Et c'est très significatif par rapport à tout ce qui se passe présentement. Donc, dans les gens qui entrent membres de la NFA dans le prochain mois, eh bien, cette M1 Garant-là, la mienne, là, on va en prendre un au hasard dans la gang. On est capable de savoir qui s'inscrit là, dans le prochain mois. Là, et on va faire tirer la M1 Garant, la réplique de la M1 Garant. Tout à fait légal, parce que ce n'est pas une arme à feu. Il n'y a pas d'action réelle dedans. Voilà, il m'a essayé de faire croiser, de le retirer. Alors, tout fonctionnel. On peut sortir le chargeur. On peut charger les balles qui sont toutes séparées une par une. Tout fonctionne. Le clip charger, toute la patente fonctionne super bien. Les mires sont ajustables dessus. Tout, ça tire juste pas. Dans le prochain mois, on fait tirer la M1 Garant à ceux qui s'abonnent. Fait que, partagez le live, là. Partagez-moi ça, taguez votre monde, puis allez. Non, je la briserai pas, Marie-Claude. Non, je la briserai pas. Mais, bon, c'est ça. Oui, non, c'est correct, je la briserai pas. Je la laisse sur le clou en arrière. Là. Beau, là. Elle bougera pas, là. Mais, le reel à côté, on va le garder, mais la M1 Garant, on l'a fait tirer. C'est aussi symbolique, la M1 Garant, que la Lee Enfield 303. La Lee Enfield, pour ceux qui ont été cadets, ils modifiaient des Lee Enfield en calibre 22, donc on modifiait Lee Enfield 22 pour faire tirer les cadets. Moi, j'ai appris à tirer, grosso modo, avec des Lee Enfield modifiés 22. On faisait les compétitions d'un cadet, les petits fusils croisés couronnés, on était tout fiers. Là. C'était avec les Lee Enfield qu'on le faisait. C'est une autre partie de l'histoire, effectivement, qui est en danger. Donc, c'est ça. Mais cette liste-là, pour revenir à ça, moi, je la trouve excessivement dangereuse. Là, on a eu une réponse de Mendicino qui dit que, bon, les Ruger No. 1 et etc., les Witherby qu'on a vu apparaître, devrait y apparaître une description qui est propre au calibre qui dépasse le 10 000 joules. Mais dans l'instant, il faut se comprendre que c'est encore listé sous Witherby Mark V puis Ruger No. 1, comme la Zastava, comme etc., même les Sporterize, ils sont listés comme modèles. Il n'y a pas de définition. On attend parce qu'encore là, on nous a dit qu'on ne touchait qu'aux armes militarisées et leurs variantes pour en embarquer des derrières. On attend de voir, mais c'est une problématique que ce soit listé comme ça, qu'on ait une définition. C'est là-dessus que je veux t'amener. Là. Y a-t-il un lien pour s'abonner? On peut toujours mettre le lien pour l'abonnement dans les commentaires, s'il te plaît, en régie? Et voilà, vous l'avez direct là. Cliquez là-dessus, vous allez tomber sur la partie francophone du site de la NFA pour vous abonner. Allez-y. Elle vous tente, la petite M1 Garant. Hein? Je pense qu'elle est plus trouvable. Et c'est... Ouais, Mendicino dit n'importe quoi comme toujours. Bon, et c'est... Moi, j'attends de voir. Hein? La preuve est dans le pudding. J'attends de voir. Là, on a posé des questions. On a eu des réponses. Une autre réponse que je vais vous venir avec tout de suite après, là, où on gardera peut-être pour le prochain live, parce qu'on va vraiment parler de vos armes sont-elles en danger dans le prochain live. Problématique d'avoir et une définition et une liste. Avec un caractère evergreen. J'aimerais ça que tu t'arrives sur le caractère evergreen de tout ça. Il veut dire qu'on peut être malléable pour longtemps à ta barouette, là.
Mais c'est sûr. C'est certain. Puis ils vont vouloir ajouter éventuellement. Tu sais, pas que c'est un test, parce que dans le fond, ils vont voir le backlash. Naturellement, utilisez-moi anglais. Ils vont voir qu'est-ce que la réaction qu'il va y avoir du public par rapport à ça. Je vais être très franc avec toi en ce moment. Il y a un gros risque d'élection prochainement, au printemps. On est encore avec un gouvernement minoritaire. Est-ce que C21 va aller jusqu'au bout? Écoute, ça on ne le sait pas, mais ils font. Puis, tu sais, c'est pas la première fois qu'ils font ça, c'est toujours la même stratégie. On met ça beaucoup plus gros pour après ça mettre ça plus petit puis que ça passe, que ça soit accepté.
Hey, tu mets un char avant, tu mets un char avant, tu le mets à 10 000 pour avoir 9.
Exactement. Ça, c'est le même principe. Sauf que eux, ils vont le mettre à 10 000 pour le vendre 1 000, probablement. Enfin moins. La seule chose, c'est que si ce n'est pas là, ça va être dans un an. T'sais, s'il y a encore un gouvernement libéral dans 2 ans, 3 ans, je veux dire, la tendance est là sur le long terme. Si on regarde les 40 dernières années, tranquillement, pas vite, on en enlève, on en enlève, on en enlève jusqu'à temps que plus personne ait des hommes.
Kelly demande, ça représente quoi un calibre de 10 000 joules et plus? Les boys, Patrick puis Christian sont dans les commentaires, là, ils peuvent répondre. Dans ma tête à moi, ça part à rugby pas mal en montant dans ce coin-là.
Grosso modo, en ce moment, là, tout ce qui est 338, la poids en montant, là, je te dirais, c'est pas mal. Christian va pas me corriger.
Oui, Christian, Pat puis Christian sont là, les deux sont là. Fait que, que je pense que la 338, la poids mag, elle ne cote pas le 10 000 joules, si je me trompe.
Non, elle est acceptée, là, elle est encore correcte.
Ouais. Fait que, même si je me demande si Cheetak, si on est dans 10 000 joules, les boys, 416 rugby, on nous dit 416 rugby. Cheetak, Pat ou encore Christian, on est-tu dans 10 000 joules? Ça, je ne sais juste pas. Ils vont nous répondre. De toute façon, il y a, il y a toujours un petit 10 secondes de lag entre ce qu'on dit et ce qui se ramasse là-bas. Là. Fait, c'est ça. Ce caractère evergreen-là est un caractère qui est vraiment problématique. J'essaie de voir comment. Cheetak ban. Bon, ça veut dire que Cheetak, on sort à 10 000 joules. OK, c'est Benny.
315 chez TAC, puis 408 chez TAC. Ça, c'était sûr. Fait, comme je t'ai dit, je suis pas mal sûr. Là,
bienvenue, Jean-Luc. 38. Bienvenue dans le club.
Merci beaucoup, Jean-Luc. Je pense que 338 en montant, là, c'est pas mal.
En haut de 338, c'est pas mal ça. Mais tiens, encore là, puis la FEDCP l'a posé comme question, ça, à Mendicino. Fait comme, mais l'autre, on parle des chasseurs puis des tireurs à longue portée, des tireurs sportifs. Mais en quoi un chasseur de safari qui voudrait posséder son arme n'aurait pas le droit de la posséder? Tu sais, si on n'est pas dans ce que les autres catégorisent d'armes d'assaut, parce que c'est drôle, parce que dans la législation, généralement, on doit utiliser des termes qui désignent des items, donc qui existent. Et puis, dans la loi canadienne sur les armes à feu, le terme « arme d'assaut » n'est pas indexé. Il n'existe pas. Pantoute. That's it, that's all. Fait que c'est déjà un blasphème au départ, là. Mais en quoi est-ce que nos chasseurs... Ça fait 7354 pieds-livres. C'est quand même... C'est du stock, mais moins que je pensais. Tu vois, je l'avais pas converti de même. Là. C'est moins impressionnant que je pensais. Là. Mais en quoi les chasseurs de safari ne pourraient pas posséder leur arme pour l'amener? Je veux dire, c'est un petit peu... On parle du droit à propriété, là, ce qui est à toi.
Ça n'a jamais été... Les chasseurs de safari puis les chasseurs et les tireurs sportifs n'ont jamais été la cause du problème de la violence au Canada. Là. Ça, on le sait. Là. Donc, c'est juste parce que c'est des gens qui observent les lois et qui vont se conformer. Le gouvernement sait très bien que s'ils amènent des lois, dans le fond, ils vont pouvoir dire qu'ils ont fait quelque chose. Et ces gens-là vont se conformer. Ces gens-là ne vont pas risquer leur vie, leur carrière, leur famille pour aller faire de la prison ou charger des amendes qui n'ont aucun sens. Ça.
Perdre leur droit de traverser les frontières en étant au code criminel, bon, etc. Je peux te catégoriser facilement dans la chasse de mon côté, là, qu'est-ce qui peut toucher, à quoi ça peut représenter une 10 000 joules. En tir sportif, on utilise-tu des calibres dans ces coins-là, Chuck?
Ben oui, écoute, tous les gars à Val-Cartier là, qui sont sur la base militaire, tu sais, du 50 BMG, comme tu l'as dit, 375, tu sais, c'est essentiellement des calibres de longue distance et de ELR, là, de Extreme Long Range. Je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'adore. Tu sais, notre chum Pierre Lefebvre, qui justement, tu sais, qui pousse beaucoup sur le long range hunting. Oui. Tu sais, tu vois quand tu deviens, parce que moi, je suis à la base un chasseur qui a tendu un petit peu plus vers le tir sportif. Quand tu viens à tirer 25 000 rounds par année, après ça, quand tu arrives pour tirer sur un animal, je veux dire, ta précision, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus agréable parce que la confiance que tu as dans ta gâchette est vraiment pas la même. Là. Donc, tu sais, l'intérêt, justement, de s'améliorer en tir rend la chasse beaucoup plus agréable.
Pat nous fait remarquer, tu sais, entre autres, le châssis ou l'action CDX-40 de Cadex qui a été tassée de côté parce qu'elle serait capable d'accueillir ou d'être machinée ou d'être chambré dans des calibres qui dépasseraient 10 000 joules qui ont été tassés de côté. Mais ça fait partie, justement, du fond de la question qu'on a posée à Mendicino, à savoir, là, il catégorise des armes listées comme le CDX-40, c'est une action. Ce qui fait une arme, c'est son action. Puis il nous a dit qu'il listerait, qu'il y aurait une exemption qui dirait dans les calibres qui pouvant dépasser de 10 000 joules et plus. J'ai bien, bien hâte de l'avoir arrivé. Je t'amène à autre chose, Chuck, le temps avance, le temps file quand même assez vite.
Oui, ça passe vite.
Presque 45 minutes qu'on est en live. Je vous fais écouter un petit vidéo très, très, très rapide qu'on a retrouvé grâce à vous autres. Vous nous l'avez renvoyé, on le cherchait. Vous savez, Bill Blair, à la droite de M. Trudeau, lors de la mise en place en décret en conseil de la loi C-21 puis C-71 aussi, qui a pris le guidon dans le dossier à cibler ce qu'on a listé présentement, donc les armes des propriétaires légitimes d'armes à feu. Au moment où est-ce qu'on mettait une belle loi en place avec laquelle on aurait pu renforcer, aider à réduire l'espèce d'entonnoir qui part de la frontière la plus poreuse au monde avec les États-Unis, l'importation illégale, puis les armes illégales dans le marché, et qui soudainement sont virées vers les propriétaires légitimes. Bon, on va aller écouter un peu ce que Bill Blair avait à dire avant qu'il soit en politique, au moment où est-ce qu'il était chef de police à Toronto par rapport à la source de la criminalité armée. Je vous présente ça.
I mentioned the importation of guns and the supply of guns. More than 70% of the crime guns that we seize in the city of Toronto come across the border. They are obtained legally or illegally in the United States, quite often through straw purchase, and they're smuggled into this country. And they are smuggled in, and they reach the streets of our community. And they are used to commit so much violence and victimize so many.
Chuck, ça, pour moi, c'est la définition de l'hypocrisie. Et on voit dans les dernières semaines et mois de plus en plus de chefs de police, le remplaçant de M. Blair, entre autres, de style d'assaut, ouais, c'est ça, ils disent style d'assaut maintenant, t'as raison. De plus en plus, même l'association des chefs de police, les associations de services, d'agents de services frontaliers qui viennent carrément s'opposer à la mise en application, à la façon dont on met en application cette idée-là de protection de nos civils qui était très, très bonne au départ, mais dans le concret, ça ne se passe pas de la bonne façon. Donc là, on s'oppose en masse du côté des chefs de police, des services frontaliers, les polices sur le terrain, les enquêteurs, puis là, les pas les maires, mais les premiers ministres des provinces qui embarquent en plus là-dedans. Je veux dire, on a une opposition de masse. Donc, on ne parle pas d'opposition à la Chambre des communes, on parle d'opposition sur le terrain dans ceux qui ramassent des victimes.
En effet, tu sais, la vérité vient toujours à la surface. Là. Puis, écoute, je suis content de voir ça que finalement, tu sais, il y a des gens qui se permettent de porter leur voix puis de s'opposer à ça parce que justement, tout le monde le sait que ça va absolument rien changer. Parce que si ça avait vraiment changé quelque chose, ben la réglementation qu'on a mise en place il y a quelques années aurait porté ses fruits. Mais on voit que ça change absolument rien.
Bien, ça fait plus que rien changer. On a une augmentation de au-dessus de 80% là, dans les crimes de gangs de rue puis dans les crimes violents depuis l'élection de ce gouvernement-là avec la mise en place de mesures comme C5 qui réduit les peines minimales là, pour les minorités visibles ou encore les Premières Nations. Pour limiter la surreprésentation de ces gens-là, écoute, si c'est eux autres qui en font le plus, je dis pas que c'est eux autres qui en font le plus. Mais si un groupe d'individus est surreprésenté dans un pénitencier, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des crimes, pas qu'on allège leur sentence. À mon avis. Fait que, tu sais, explosion des crimes, là, la violence sévère puis des gangs de rue depuis la mise en place de ce gouvernement-là. Tu sais, on disait tantôt, la preuve est dans le pudding. Là. Ça va pas bien. C'est pas la bonne méthode. Protéger nos rues, on sait d'où viennent les problèmes. On a des opérations sur le terrain comme l'opération Centaure présentement. Là. Parlez-en des policiers, là, avec une poignée de change, ils sortent plein de criminalité armée des rues. Là. On a des initiatives qui fonctionnent dans lesquelles si on injectait des moyens, des scans aux services frontaliers, des effectifs sur le terrain, on sait de choc d'où ce qui vient le problème. Là. Puis là, les chefs de police, ceux qui sont à la tête des unités qui ramassent des morts, nous disent qu'on vise vraiment pas à bonne place. Il me semble que c'est...
Martin, pire que ça, tu sais, même si tout est banni, puis qu'on arrive à protéger comme il faut les frontières, tu penses que le crime organisé ne trouvera pas un moyen justement de s'armer quand même? Écoute, en ce moment, là, on peut parler d'impression 3D. Tu n'as plus besoin de traverser des armes par les frontières.
Écoute,
des armes, là, tu vas en retrouver en prison, tu vas retrouver des couteaux, tu sais, je veux dire, la contrebande, tu en retrouves partout. Donc, ça changera absolument.
D'où vient la contrebande? S'il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de contrebande. S'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de contrebande. La contrebande, l'homme l'a inventée pour passer par-dessus l'oppression ultime, comme par exemple, quand on était en temps de prohibition aux États-Unis, même la mission Saint-Michel-Archange, des moines qui ont été expatriés des États-Unis, qui s'appelait San Miguel Arcángel de l'autre bord, dans le coin de Paso Robles, s'est rendu Saint-Michel-Archange ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont été expatriés des États-Unis. Parce que dans le temps de la prohibition, même eux autres, ils faisaient du vin de messe, ils fortifiaient, puis ils traversaient la rivière pour aller vendre au Mexique l'autre bord. En temps de prohibition ultime, prend place le marché noir et la contrebande. J'ai même vu dans les médias, puis ça, là, je l'ai vu passer rapidement. Je fais comme, oh, dis, on est dans le transport par voie égo. Il y a vraiment quelqu'un qui est sorti. Je me sens, je ne sais pas si c'est Mathieu Bock-Côté ou c'est quelqu'un qui a des couilles en tabarouette qui l'a sorti. À la limite, ces actions-là sont des actions qui vont influencer littéralement. C'est une incitation au marché noir et à la contrebande. Et on le voit dans certaines réserves, entre autres, qui sont à côté sur les frontières. Il y a une recrudescence dans la dernière année du transport d'armes vers le territoire canadien au travers de la... Je veux dire, c'est évident, c'est tout le temps ce qui se passe. On dit la nature trouve tout le temps son chemin et l'homme fait partie de la nature, oubliez pas ça.
Tu vois, ça va un peu contre leur philosophie. Tu sais, je regarde par rapport aux drogues. Tu sais, on a légalisé le cannabis, puis il y a une tendance justement à vouloir décriminaliser tu sais, les drogues dures, puis de rendre ça un peu plus acceptable. On utilise cette stratégie-là pour ce qui est les drogues, mais les armes à feu, c'est tout le contraire. Donc, tu sais, si on veut contrôler quelque chose, c'est quoi la solution?
Bien, tu sais, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la clé de tout, tant qu'à moi, puis... Si tu veux pointer un peuple qui s'est rendu autonome là-dedans, mais regarde les propriétaires légitimes d'armes à feu. On a deux fédérations qui prodiguent des formations. On a le processus administratif le plus complexe, mm-hmm. plus complexe que le mariage puis le divorce pour obtenir des armes. Je veux dire, à un moment donné, là. C'en est ridicule. Tu pointes la partie de la population qui est responsable et qui fait ces formations-là. Je veux dire, à la limite, on va enseigner à un enfant qu'est-ce qu'il doit faire quand il trouve un carton d'allumettes par terre pour ne pas sacrer le feu en quelque part. Mais on a 80% de la population qui ne savent pas quoi faire avec une arme quand on la trouve par terre, puis on leur fait peur en plus des mesures. C'est sûr et certain que l'éducation puis l'information serait une clé beaucoup plus intéressante. Donc, vraiment faire de la prophylaxie, hein, faire de la prévention serait une clé beaucoup plus importante que de faire un bannissement total. J'empêche mon jeune de sortir le soir, il va finir par sortir par la fenêtre de sa chambre. C'est ce qui va se passer. That's it. J'ai des commentaires qui rentrent.
Congrès britannique à partir de mardi.
Oui.
Les utilisateurs ne seront plus arrêtés, ne verront pas leurs droits saisis par la police dans le cadre d'un projet pilote de 3 ans.
Et voilà.
Non, mais tu sais, c'est un...
Ben, c'est ça, tu sais. On prend ce qui était illégal, puis on le rend légal, puis on prend ce qui était légal, puis on le rend illégal. T'as-tu pogné, je pense que je te l'avais envoyé, il y a une membre du Parlement européen qui a ramassé solide M. Trudeau.
Ouais. L'Allemande.
En disant carrément, vous devriez, s'il vous plaît... sortez d'ici. Là. Je veux dire, graciez-nous de votre absence. Hein. Il dit que Trudeau est une disgrâce à toute diplomatie de par l'ensemble des actions. Là. C5, C21, le cannabis, puis beaucoup, beaucoup d'autres choses. Elle dit même dans son speech que c'est inquiétant de voir l'admiration qu'il a envers le régime communiste. Hein. C'est quelque chose en tabarouette. Action. Si on se demande comment le Canada est vu ailleurs dans le monde, là, le mot Trudeau revient souvent. Puis si vous pensez qu'on s'en fait avec Trudeau, là, on s'en fait étrangement pas assez comparé aux regards de l'extérieur qui sont portés envers le Canada, vers la fluctuation importante des crimes, de l'utilisation de drogue douce, drogue dure, de la diminution des peines pour les criminels, puis de l'augmentation de la réglementation, ces non-criminels responsables. Ça devient difficile en tabarouette. Là-dedans... Parce qu'on s'en va vers la fin. Chuck, il y a un message d'unité qu'il faut avoir. Vous êtes plusieurs associations, on est plusieurs regroupements, on est des tireurs sportifs, on est des chasseurs, on est des collectionneurs. Yes. Il n'y a pas de place pour la division. La division, c'est, et tu vas me corriger, puis je vais te laisser le mot de la fin là-dessus, mais on va revenir sur le membership qui est très important. La division, c'est littéralement la stratégie du lobby inverse, donc le lobby anti-armes, de vous diviser dans la simple façon qu'ils ont de diffuser la nouvelle, de vous diviser entre vous autres, tireurs sportifs, chasseurs, collectionneurs, etc. C'est la stratégie. Quand on divise, on contrôle mieux. N'enrichissez pas ça de l'interne. Que vous tirez sur du papier, sur un chevreuil pour nourrir votre famille, ou que vous collectionnez des garants M1, ou que vous rentriez membre d'un NFA pour en gagner un, vous êtes un propriétaire légitime d'armes à feu, vous faites partie d'une famille qui devrait s'unifier, un peu comme Chuck l'a fait tantôt en disant « rentrez membre des autres associations ». La NFA, c'est important, mais CCFR puis le CSSA aussi, c'est excessivement important parce que tout le monde a leur patch d'action. Puis il faut garder cette unité-là. Embarquez pas dans la division, embarquez pas dans le comparatif des différents groupes. C'est hyper important. Chuck, ça fait quoi de s'abonner, de rentrer membre du CCFR? Qu'est-ce que je vais chercher comme fierté personnelle là, de donner mon 35$? Hey, c'est 35$, gang, 35$. Je ne vous demande pas 100$, 35$. Il donne quoi, mon 35$, consciemment puis dans le concret?
Le 35$ te donne une voix au niveau du Parlement. Plus on est nombreux, plus notre poids politique est important. Puis quand nous autres, on va rencontrer des membres du Parlement, donc des élus, si on prend un rendez-vous avec eux, on leur dit, regardez, nous autres, notre association a 70 000 membres versus 500 000 membres. Ça, eux, le calcul qu'ils font, c'est des votes. Ce sont des membres, ce sont des gens qui vont voter. Est-ce que je dois les écouter? Est-ce qu'ils sont importants ou non? Donc, plus on a de membres, plus le poids politique est important. Puis c'est là que nous autres, on croit que l'importance, justement, d'avoir le plus grand nombre de membres est défaite.
À l'intérieur de la NFA, vous avez aussi un personnel, vous avez du personnel alentour de vous autres qui, on va dire, des partenaires sur le plan juridique qui peuvent venir prêter main forte. Et ça prend des sous pour payer ça aussi. Hein. Quand on décide de défendre une cause ou d'aller en appel ou de poursuivre une cause contre un gouvernement, ça se fait pas petite créance à 2 000$. Ça coûte des sous, ça prend des sous. Il y a de la donation.
Ben, tu vois, membership. La NFA, quand il y a eu le registre québécois, la NFA était l'organisation qui a été en cours contre le gouvernement du Québec. Malheureusement, on a perdu, mais on a tout donné justement pour faire valoir le droit des propriétaires
dans
du Québec.
Vous y êtes allé. Vous y êtes allé. Le message aux membres, c'est on est allé. Là. C'est ce que la NFA a fait.
C'est là qu'est notre force dans le droit.
Représentation par le nombre, représentation par les moyens qu'on se donne comme association, parce qu'on devient membre associatif toute la gang, sur le plan personnel, sur le plan corporatif. Vous avez, en passant, je vous l'ai dit, puis je vous le répète, il y a la possibilité d'être membre à vie. Ben, je sais qu'il y en a plusieurs. Là. Je vois des noms depuis tantôt là, que c'est des gars qui aiment bien ça, ramasser le lifetime membership du Bone and Crockett Safari Club, etc. Ben, même chose du côté de la NFA, vous pouvez avoir le lifetime membership. Vous allez recevoir aussi le Firearm Journal, qui est super intéressant. Bel éditorial, il y a du beau socle là-dedans. Il y a souvent des concours. Là. Il y avait je me souviens pas c'est quoi la dernière qui était à faire tirer, mais il y avait une carabine justement dernièrement à faire tirer, entre autres. Là.
On a fait tirer un Kraken de Cadex. On a fait tirer aussi une Enfleur dernièrement, qui est une arme québécoise. Donc, non, on a différents concours. Aussi, avec le 35$, il y a aussi également une assurance disponible qui vous protège jusqu'à 2 millions de... je pense que c'est 5 millions de responsabilités civiles. Il faudrait que je vérifie. On en parlera au prochain live. Mais pour 10$, dans le fond, ça vous protège partout dans le monde pour tout ce qui est activité reliée au tir.
Ouais, juste ça, là, sur le plan personnel, si vous allez le prendre à l'extérieur d'un regroupement comme la NFA, là, vous allez trouver ça cher en tabarouette. Ouais. C'est des avantages qui... oui, exactement. Semaine prochaine, vos armes sont-elles en danger? Est-ce que les armes que vous avez chez vous sont en danger? Est-ce qu'on a à craindre pour l'ensemble des armes? Je vous donne une partie de la réponse là, qui va peut-être vous tenter d'écouter la semaine passée, parmi les réponses de Mendicino aux questions qui ont été posées dans les dernières semaines. Est-ce que ma semi-automatique qui était fabriquée et distribuée au Canada avec un chargeur de 3 munitions devient illégale dans la définition si dans d'autres pays, au même temps, il y avait des chargeurs avec 5 et 10 munitions disponibles? La réponse du ministre a été oui. Si votre arme était disponible avec des chargeurs supérieurs à 5 munitions, et plus dans d'autres pays lors de sa mise en marché, elle est illégale. Là, on parle de toute une autre soupe. C'est beaucoup plus d'armes semi-automatiques qui viennent de tomber dans les filets du fédéral. Si vraiment c'est ce qui se passe. Chuck Côté, je te remercie infiniment pour ce soir. On a passé une belle veillée.
Merci. Yes.
Merci, gang, aussi d'avoir été là. Chuck, la semaine prochaine, écoute, on se lâche un sif avant, mais on se retrouve pas mal, même heure, même pas. Ça va être un rendez-vous, toute la gang, pour les prochaines semaines. On va faire le tour. Envoyez-nous vos questions au travers des commentaires dans ce live-là ou envoyez-nous-les directement. Vous pouvez trouver Chuck sur Facebook facilement. Chuck Côté, vous allez le trouver. Moi, vous me connaissez aussi, donc sur Facebook. Allez aimer la page Facebook de la NFA. Allez entrer membre de la NFA. Les liens sont dans les commentaires. Envoyez-nous vos questions. Pour builder les prochaines émissions, on va se fier sur les questions qui sont les plus récurrentes. Le but de la NFA, c'est d'informer dans le cadre du bulletin qu'ils ont mis en place, qui est Liberté, Honnêteté, votre bulletin NFA en français. Ça prend un feedback de l'auditoire pour savoir de quoi vous voulez entendre parler. Ils ont les ressources, ils vont faire la recherche au contenu. On vous revient avec tout ça. Chuck Côté, un énorme merci, cher.
Martin, salutations.
Yes, on se dit à la prochaine. Salut, gang. Merci d'avoir été là.
Bye. Merci beaucoup.